France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, hommage à Maurice Baquet en compagnie d'Hervé Baudot qui vient lui consacrer un très joli double livre, volume de textes et volume de photos où l'on retrouve cet incomparable fantaisiste, skieur, acteur, violoncelliste qu'était Maurice Baquet. Il fut aussi l'un des premiers invités de cette émission. Rendez-vous avec Hervé Baudot dans quelques minutes en fin de programme, quelques archives signées Beethoven et Jean Wiener. Mais pour commencer, écoutez la plus ancienne de toutes les chansons de Prévert.
C'était dans un quartier de la ville lumière, où il fait toujours noir, où il n'y a jamais d'air. Et l'hiver comme l'été, là, c'est toujours l'hiver. Elle était dans l'escalier, lui à côté d'elle, elle à côté de lui. C'était la nuit. Ça sentait le soufre, car on avait tué des punaises dans l'après-midi. Et elle lui disait, ici il fait noir, il n'y a pas d'air. L'hiver comme l'été, c'est toujours l'hiver. Le soleil du bon Dieu ne brille pas de notre côté. Il a bien trop à faire dans les riches quartiers. Serre-moi dans tes bras, embrasse-moi, embrasse-moi longtemps, embrasse-moi, plus tard il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Ici, on crève de tout, de chaud, de froid, on gèle, on étouffe, on n'a pas d'air. Si tu cessais de m'embrasser, il me semble que je mourrais étouffée. T'as 15 ans, j'ai 15 ans, à nous deux, on a 30, à 30 ans. On n'est plus des enfants. On a bien l'âge de travailler. On a bien celui de s'embrasser. Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Embrasse.
Et voici un moment que je la cherchais, cette toute première chanson de Prévert, première chanson enregistrée en 1934. Les connaisseurs auront peut-être reconnu la voix de Florel, qui à la même époque avait enregistré la version française de l'opéra de Katsu, et puis le très bel orchestre de Valberg. Tout cela fait partie d'un coffret qui vient de paraître, les chansons de Prévert, une belle anthologie chez Frémaux et Associés. Je vous en redirai peut-être d'ailleurs un mot tout à l'heure, et puis je pense que Prévert, nous allons en parler aussi avec mon invité à propos de Maurice Baquet.
Thank you.
En vacances, une polka de Joseph Strauss interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Claudio Abbado.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous rendons hommage à Maurice Baquet. Maurice Baquet que j'avais reçu dans la toute première saison d'Étonnez-moi Benoît. Et c'est un souvenir merveilleux parce que c'était un homme sympathique, cultivé, avec qui j'avais passé un moment délicieux en évoquant notamment quelques opérettes. Maurice Baquet nous a quittés en 2005, mais il vient de paraître un très joli livre qui lui est consacré, livre plein de photos et de textes pour faire revivre ce grand fantaisiste. Alors j'accueille aujourd'hui l'auteur de ce livre, Hervé Baudot.
La neige tombe à gros flocons sur la Suisse endormie, et les traîneaux glissent sans bruit sur la neige poudreuse. Quand la neige est toute fondue, on voit l'herbe qui pousse, qui vous fait alors oublier la belle neige poudreuse. Blé, 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 blé. Après le printemps, c'est l'été, c'est l'automne admirable qui vous fait alors pressentir la belle neige poudreuse. Blé, 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 blé. Et de nouveau l'hiver revient sur la Suisse endormie, et les traîneaux reglissent sans bruit sur la neige poudreuse. Blé, 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 blé.
La neige poudreuse, une chanson de Maurice Baquet. Bonjour Hervé Baudot.
Bonjour.
J'ai commencé avec cette chanson qui nous fait voir le charmant Maurice Baquet sur les pistes enneigées où il a passé beaucoup de temps dans sa vie. Mais il a passé aussi beaucoup de temps dans les studios de cinéma. Il a passé beaucoup de temps sur scène avec son violoncelle. Il a passé beaucoup de temps à chanter l'opérette. Au fond, on ne sait pas très très bien comment le définir, cet homme à la fois si sympathique et si multiple.
C'est un homme aux multiples talents.
Ouais.
Et... qui, dans ses différents talents, a jamais non plus sacrifié son exigence et qui a toujours tout fait avec bonheur et
ouais.
avec une grande qualité dans tout ce qu'il faisait. Et c'est vraiment un personnage très intéressant. J'ai rencontré un grand skieur, Anselme Beau, là, qui l'a connu et qui disait, il y a des gens qui font des choses très très bien, qui font une chose très très bien.
Oui, c'est ça,
et,
voilà.
Et Maurice, lui, fait beaucoup de choses bien. Et ça, c'est rare, en fait.
Voilà. Il faisait tout ça très bien.
Voilà, il faisait tout ça très bien.
Qu'il s'agisse d'ailleurs de descendre les pistes de Chamonix ou de descendre les escaliers de la Tour Eiffel, je crois qu'il a fait ça aussi avec ses skis.
Absolument. Hein. De descendre les pistes de Chamonix, de grimper en montagne sur des voies difficiles.
Avec de grands alpinistes.
Avec de grands alpinistes. Enfin là, c'était pas le client qu'on sortait, mais il faisait vraiment partie de leur monde.
Ouais.
Et puis, à côté de ça, eh bien, toute cette carrière dans la musique, dont bien sûr l'opérette, la fantaisie, mais aussi, je pense qu'on en parlera un peu, une exigence au violoncelle.
Extrême, violoncelliste,
voilà, oui. D'un grand violoncelliste.
Mais alors vous-même, Hervé Baudot, moi je vous connaissais pas, j'ai découvert ce livre et puis d'après ce que j'ai compris, au fond vous ne vivez pas du tout dans le milieu du spectacle ou de la musique. Vous êtes un homme de communication dans une grande entreprise de produits de montagne, c'est
oui,
ça?
Oui, voilà, c'est ça. Moi je travaille dans la communication, mais...
Mais qu'est-ce qui vous a conduit alors à Maurice Baquet, qui n'est pas non plus un artiste emblématique pour le public de votre génération.
Ce qui m'a conduit à Maurice Baquet, c'est que donc à côté de mon travail, j'ai des passions. La montagne en est une et il y en a une autre qui est la musique sous différentes formes. Bah, le lien, la montagne, la musique, quand on s'intéresse à ça, on aperçoit assez vite sur des photos un gars avec son violoncelle sur le dos.
Ah voilà, c'est ça.
Et on se dit, mais comment, voilà.
Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme?
Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Et en plus, il a l'air... sympa comme tout. J'ai vu un personnage qui avait une bonne humeur, qui portait aussi un regard sur la montagne un peu différent, justement une montagne heureuse. Et c'est ce qui m'a aussi conduit à m'intéresser à lui. Et j'avais entendu parler du cinéma, des films. Et
cet intérêt, il a commencé avant la disparition de Maurice Baquet en 2005 ou c'est plus récent?
Alors, j'avais vu sur des photos avant sa disparition. Ouais. Et puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai vraiment eu envie de creuser sur toutes les facettes de Maurice.
Vous avez précisé aussi d'ailleurs des photos, et c'est vrai que vous avez choisi de faire un livre qui était en fait un ensemble de deux petits livres. Hein. Un livre qui est une biographie de Maurice Baquet, que vous avez écrite, et l'autre livre qui est un choix de photographies de Maurice Baquet. Oui. Et les photographies sont importantes parce qu'elles sont souvent très drôles, avec son violoncelle, avec les décors de montagne, avec des situations souvent extravagantes, avec des extraits de photos de cinéma. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui aussi est entré dans la mémoire collective à travers la photographie.
Oui, je crois que c'est quelqu'un qui avait un grand sens de la... Enfin, il le faisait certainement naturellement, mais un sens de la mise en scène.
Ah oui.
Et le travail qu'ils ont fait avec Doineau, par exemple, tout le travail photographique qui a duré des années qu'ils ont fait, illustre parfaitement ça. Mais il y a aussi beaucoup d'autres photos, d'autres photographes dans le livre. Maurice était très photogénique.
Oui, très.
Il est très photogénique, voilà.
Ah, c'est un plaisir à feuilleter.
Et donc, ça passe très bien.
On va y revenir plus en détail, mais tiens, vous nous avez dit que vous étiez aussi passionné de musique, alors voilà une des musiques que vous adorez.
J'ai rencontré l'homme de ma vie. Où ça? Dans la rue. Raconte.
Je rentrais de l'école et je traînais Boubou, qui trépignait, pestait, jurait comme un voyou. Au milieu de la rue, il me fait un caprice et jette son cartable dans les immondices. Me voilà, genoux cernés par les vélos, recherchant les cahiers, les crayons, les stylos. Répandu ça et là, lorsqu'une voix aimable me fait lever les yeux vers un type adorable. Comme un souffle grisant, sa voix à mon âme chante, fredonne et joue comme un envol d'abeilles. Je croise son regard et son regard me toise. Je suis émerveillée, puis je reste pantoise. Moi comme je les aime, un air intelligent, un sourire incertain, quelques mèches d'argent, dans une chevelure de pâte de poète, un concert sublime éclate dans ma tête. S'oppose longuement, ensorcelés tous deux par un enchantement. Boubou attend toujours au vélo des filles, et le temps lentement perpétue notre idylle. Mais il me faut partir et mon cœur se résigne, car mon bel inconnu du départ donne signe. Il se lève et sa voix émue me dit en face: votre combinaison, le saviez-vous, dépasse ce fut tout. Est-il près, est-il loin, est-il à Rochefort? Je le retrouverai car je sais qu'il existe bien plus que la raison. Le cœur est le plus fort, à son ordre, à sa loi, personne ne résiste, et je n'y résisterai pas.
Voilà, et si vous croyez que vous avez entendu Françoise d'Orléac dans Les Demoiselles de Rochefort, vous vous trompez, car la voix, c'est celle de Claude Parent, du moins, c'est elle qui prête sa voix, donc, à Françoise d'Orléac dans la comédie musicale de Michel Legrand. Hervé Baudot, vous deviez avoir un an quand c'est sorti.
Alors, j'ai vu ça, évidemment, beaucoup plus tard. Mais, c'est le cinéma de Jacques Demy, toutes ces couleurs, cette musique du bonheur, ça swing terriblement.
Mais avant d'en arriver là, vous aviez eu, comme beaucoup de gens de votre génération, votre période pop, rock,
Ah oui, je l'ai toujours, mais voilà. à la pop, au rock sont venus s'ajouter le jazz, la musique classique.
Voilà. Bon, bah, en tout cas, on est toujours heureux de commencer, ou presque, un entretien avec la musique de Michel Legrand. Mais revenons à Maurice Baquet. Maurice Baquet, auquel vous consacrez donc ce livre, en commençant par nous rappeler qu'il est né à Villefranche-sur-Saône, dans une famille assez merveilleuse, par certains côtés d'ailleurs, avec son père tromboniste, la rencontre de ses parents. Il y avait un climat qui paraît très sympathique déjà.
Ben voilà, une famille locale, elle commerçante. Donc le père qui était aussi passionné de musique, tout le monde faisait un petit peu de la musique dans la maison et c'est ainsi que Maurice a commencé à découvrir le violoncelle. Et je crois qu'il jouait au début sur un violoncelle qui était beaucoup trop petit pour lui, donc il tapait dessus pour faire les basses. Ensemble, la famille travaillait au moment de l'apéritif, avant de passer à table. Il y a une scène que Maurice racontait souvent. Voilà, il travaillait le début d'un concerto de Schumann, je crois. Et puis voilà, la première partie se passait bien, mais au moment où ça devenait difficile pour la pianiste qui était la maman, heureusement, il y avait des choses à faire en cuisine, surveiller ce qui mijotait, et voilà. Et donc, on s'arrêtait là. Mais le virus.
Et Maurice, très vite, va finalement choisir le violoncelle comme métier, ou en tout cas comme apprentissage, hein, puisqu'il va partir au conservatoire de Lyon pour se former.
Oui, donc son père lui a ramené un violoncelle à l'âge de 11 ans. Il a commencé à prendre des cours. Je crois qu'il avait vraiment une oreille incroyable. Il avait aussi des capacités physiques pour jouer de cet instrument-là. Il part au conservatoire à Lyon. Et voilà, là, il va vraiment commencer son apprentissage et il en sort en 1928.
Voilà, et puis ensuite Paris.
Il arrive à Paris et il veut rentrer au conservatoire. Donc là, il y a un grand professeur de violoncelle, Gérard Hicking. Il ne peut pas rentrer au conservatoire parce que la classe est complète. Mais Gérard Hicking l'entend jouer des suites de Bach et lui dit « je vais te faire travailler pendant un an, c'est très très bien. Et après, comme ça, on attend, tu pourras rentrer au conservatoire. »
Voilà, il faut préciser d'ailleurs qu'avant de devenir le fantaisiste qu'on connaît avec son violoncelle, il a donc travaillé avec des condisciples de sa génération qui étaient Paul Tortelier, Maurice Gendron, absolument, et d'autres très grands violoncellistes. Donc, il aurait pu faire cette carrière, finalement, il ne l'a pas faite. Qu'est-ce qui fait qu'on le retrouve donc, dans les années 30, justement dans l'entourage de Prévert et de ce groupe d'avant-garde politique qui s'appelait le groupe Octobre?
Ça correspond à cette période où il faisait à la fois son conservatoire, son service militaire à Paris. L'histoire dit qu'il se promenait, il circulait en vélo avec son violoncelle sur le dos, ouais. Et que à la terrasse du Flore, voilà, les membres du groupe Octobre l'ont vu passer et se sont dit tiens, ça a l'air marrant.
Avec ce violoncelle
voilà,
sur le
lui,
dos.
Lui, il a l'air rigolo. Ils sont allés le voir. En plus, ben, voilà, dans le groupe Octobre, il y avait des surréalistes.
C'est un groupe artistique.
Alors,
hein.
Alors le groupe Octobre, voilà, c'est un groupe artistique. C'est un peu l'organe culturel du Parti communiste à cette époque-là. Et ils ont donc un théâtre d'agit-prop. Ils font des manifestations, ce qu'on appellerait des happenings aujourd'hui, des pièces de théâtre très engagées. Voilà, Prévert écrit. Il y a beaucoup d'acteurs qui après...
Et c'est ce groupe Octobre qui fait que Baquet, jeune violoncelliste, devient très vite autant acteur que violoncelliste.
Alors, il est déjà violoncelliste et... Le groupe Octobre cherche... Enfin, c'est un groupe de trublions. Donc, voilà, ils viennent chercher Baquet. Je pense que Baquet, au début, voit le côté amusant de la chose. C'est-à-dire qu'en effet, on se produit dans les usines, devant les piquets de grève. Et on va aussi porter des messages politiques. Et ça, petit à petit aussi, Maurice Baquet, il est rentré là-dedans aussi. Ça lui a complètement parlé. Et je pense qu'au début, il y allait pour le côté fantaisiste. Mais c'est aussi une cause qu'il a, entre guillemets, épousée jusqu'à la dissolution du groupe Octobre, donc en 36. Donc c'est le groupe Octobre, c'est un groupe dans lequel il y a Prévert, il y a Paul Grimaud, Marcel Duhamel, enfin voilà.
Mais c'est à ce moment-là aussi qu'il commence à jouer des rôles de cinéma, des petits rôles, et à être présent dans un nombre de films.
Il va commencer vraiment sa carrière avec Le Crime de Monsieur Lange de Renoir, voilà. Qu'il rencontre par l'intermédiaire du groupe Octobre, puisque le scénario est de Prévert.
Voilà. Alors on va revenir à cette partie d'ailleurs cinématographique de la vie de Maurice Baquet, mais je vous propose de retrouver justement dans l'émission qu'on avait enregistrée en mars 2000, Maurice Baquet qui évoque quelques souvenirs de cette période et puis tout de suite après un extrait d'une des nombreuses opérettes qu'il a chantées.
Étant jeune, vous en avez donc sûrement entendu parler quand même. Il y a eu une période en France qui s'appelait le Front Populaire. Ouais. Et avec, il y avait des groupes, même les musiciens étaient partie prenante, puisque hein, tous les musiciens de l'époque, ils ont aussi, on en parle moins.
Honegger,
enfin, il y a eu un mouvement de fond qui a été, qui a été très, très profond. Enfin, et il y avait des vrais groupes prolétariens. Ouais. Et puis, il y avait des groupes anarchisants gentils comme nous, et forcément, grâce au texte de Jacques Prévert, on faisait quand même pas tâche, mais les gens étaient intéressés par les textes de Jacques plus que par les slogans libérés, quand même les textes de Prévert étaient plus joyeux et en même temps très durs.
Voilà. Vous êtes devenu ami avec Prévert?
Oh, ben on était des grands amis. Et c'est lui qui m'a dit un beau jour, si tu veux être heureux, sois-le.
J'ai débuté dans Coppelia, à l'opéra un soir de grand gala. Ce soir-là, l'IFAR manqua et on le remplaça. Par qui? Par moi? Ça m'emballa, pensez ma joie de danser ce ballet-là. Sans répit, l'on répéta les pas de Coppelia. C'est inouï les jalousies que ça suscita. Ce qu'il est verni et patati patata. Petit à petit, on m'inculqua tous les tatis tata. Le joli de Coppelia, c'est les tatis tata. J'étais saoulé de débouler, moulu rompu par les jetés battus. Mais malgré ça, j'étais ravi d'être choisi pour débuter comme coryphée dans Coppelia. Pour mes débuts dans Coppelia, d'abord j'ai bu un grand verre de vodka. J'aurais dû me méfier de ça pour mes tatitata. Est-ce la faute à la mazurka de Coppelia ou bien à la vodka? Mais voilà ce qui se passa quand en ces noms me poussa. Tout ébloui, tout étourdi, je fis un pas dans le tapis, mon pied se prit et buta. Je m'aplatis dans les plâtras et je suis parti patati patata. C'est alors qu'à ce moment-là, le décor s'écroula. On me siffla, on me releva, le rideau se baissa et l'on me résilia. Et voilà comment, ayant goûté un doigt de vodka, j'ai débuté et culbuté dans Coppelia.
Entre chat 6, non, entre chat 4. Pas de bourrée, saut de chat, déboulé. Eh là, eh. Oh. Eh là, eh. Oh, oh. Comme ça, c'est raté.
Et là, nous avons fait un saut dans le temps avec cette opérette, la Quincaillère de Chicago, créée à l'ABC en 1956 sur une musique de Louis Guy. Mais c'était donc Maurice Baquet en fantaisiste, acteur, fantaisiste et chanteur qu'on retrouvera dans beaucoup d'opérettes. Hervé Baudon, on va en parler dans un instant. Mais je voudrais donc revenir à cette période d'avant-guerre où il fréquente le groupe d'avant-garde Octobre. Il fait ses débuts au cinéma et... Malgré tout, il va tourner dans beaucoup, beaucoup de films. Il en a fait combien au total depuis les années 30 jusqu'à la fin de sa vie?
Je crois qu'il en a fait environ 80.
80, oui.
80.
Oui. Ce sont presque toujours des petits rôles.
Alors, c'est beaucoup de second rôles,
voilà.
De second rôles comiques. C'est aussi des premiers rôles. Alors, les premiers rôles, c'est Bibi Fricotin.
Voilà, il y a notamment Bibi Fricotin et Les Pieds Nickelés,
Et Les Pieds Nickelés. Et puis, c'est aussi quelques rôles plus tard, un peu plus graves, avec Costa Gavras, dans Z, par exemple. Voilà.
Voilà, on le voit aussi passer d'ailleurs dans Monsieur Klein de Joseph Losey.
Scène, la scène au Veldiv avec où il joue du violoncelle. Je crois qu'il n'était pas crédité au générique, mais... Ouais.
Et puis dans des films de montagne avec Frison Roche et tous ses amis de la montagne.
Voilà, alors ça c'est l'autre versant de sa vie, si on peut dire, l'autre grande passion qui est la montagne.
Mais qui se prolonge aussi au cinéma.
Qui s'est prolongé au cinéma, notamment à travers les films de Gaston Rébuffat, mais pas que, d'autres films au début, et un grand film au milieu de la guerre qui est Premier de Cordée.
Premier de Cordée, voilà.
Sur lequel lui est acteur et alpiniste. Et...
Donc ce jeune violoncelliste qui est passé par un groupe d'avant-garde et puis qui finalement est très recherché au cinéma, il aurait pu devenir simplement acteur de cinéma, mais ce n'était pas le principal pour lui. Hein.
Non, je crois que le principal, c'était la musique.
C'était la musique, voilà.
C'était le violoncelle, le travail du violoncelle avec, avec Cerebos. C'est comme ça que s'appelait son.
Alors, rappelez-nous, l'histoire qui fait que son violoncelle s'appelle Cerebos.
C'est une histoire, c'est une petite blague à la Baquet. Quand il est enfant à table, il y a une boîte de sel. Donc, voilà. C'est le sel Cerebos, violoncelle, sel Cerebos.
Voilà. Et son violoncelle est devenu.
Et il l'a toujours appelé Cerebos, et les deux formaient un sacré duo.
Voilà. Et donc, ce jeune acteur et comédien, évidemment, va se retrouver, comme toute sa génération, pris dans l'occupation. Et comment ça se passe pour Maurice Baquet, cette traversée de la guerre ?
Lui, il est mobilisé. Ouais. Il va rentrer dans un régiment de zouaves.
Ça lui va bien.
Alors justement, donc c'est ce qu'on peut en effet penser, ça lui va bien. Mais en fait, c'est la débâcle de 40.
Et oui.
Les régiments de zouaves étaient en première ligne. Et notamment, lui, il a été dans la poche de Lille, face aux troupes de Rommel, et en mai 40. Et là, le régiment a été complètement décimé. Et je crois que ça a été une expérience...
terrible.
Pour le coup, c'était pas du tout la drôle de guerre. Voilà, il s'est retrouvé... démobilisé, s'est retrouvé à Royan après, mais ça a été une période difficile.
Mais finalement, c'est pendant la guerre qu'il va pouvoir continuer ensuite sa carrière de cinéma, avec notamment ce premier de cordée qu'on évoquait il y a un instant.
Alors c'est vrai que pendant la guerre, après, la vie artistique continue. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est démobilisé, il rejoint des troupes de théâtre, notamment la troupe de Pierre Brasseur. Il part tourner en Afrique du Nord, il tourne en zone libre. Et puis à un moment donné, il se retrouve embarqué dans ce grand film... qui est Premier de Cordée, donc un film d'après le roman de Frison Roche, mis en scène par Louis Daquin. C'est un film qui va se tourner pendant plusieurs mois en altitude à Chamonix, dans des conditions de haute montagne. C'est un énorme tournage, beaucoup de monde aussi, des gens qui finalement en profitent pour échapper au STO. On est mieux là-haut qu'en bas, quelque part. Et donc Maurice joue le rôle de Boule, qui est porteur, donc fidèle compagnon de Pierre Servetaz, le héros de Premier de Cordée. Et deux choses qu'il faut bien voir, c'est que Premier de Cordée, c'est quand même une histoire de patriotisme, une histoire d'apprentissage qui correspondait tout à fait à l'esprit de l'époque.
Du régime,
lui, Maurice Baquet, il amène le côté marrant dans l'histoire, le côté drôle, le côté décalé, que ce soit dans le film ou même pendant les soirées en refuge. Et puis, c'est le seul acteur qui ne se fait pas doubler. Parce que les autres acteurs parisiens se font doubler. Lui, il est alpiniste.
Il joue vraiment son rôle.
Il joue le rôle, il grimpe dans les voies, il fait les passages, voilà.
Alors, ça, c'est donc en 1944. Et puis, c'est après la guerre que la carrière de Maurice Baquet va prendre un tour nouveau, avec notamment l'opérette, la rencontre, je crois, avec Albert Wilmets au moment de la création d'Andalousie en 1947. On va retrouver d'abord tout de suite Maurice Baquet dans ce petit duo fantaisiste, justement extrait d'Andalousie.
Embrasse-moi.
Plus jamais.
Embrasse-moi encore.
Non, plus jamais, c'est pas la peine d'assister.
Plus jamais.
Plus jamais.
Plus jamais. Tu ne sais pas ce que tu fais. Lorsque je suis venu sur terre, trois bonnes filles se sont penchées.
Ah, ça?
Sur mon berceau et me dotèrent de quantité, de qualité. Pour la beauté et certains petits à côté, je peux dire que je fus gâté. J'ai tout, tout, tout pour être aimé.
J'ai tout, tout,
tout
pour être aimé. De la tête au talon, que l'on n'apprécie qu'à l'usage. Tu dois comprendre, après ce qui précède, que pour l'amour, je suis toujours très demandé. Et si tu veux, un jour qu'on se possède, je me tiens toujours à la disposition des poussées.
Maurice Baquet et Gismé dans Andalousie, opérette à grand spectacle créée à la Gaîté Lyrique en 1947. Alors opérette de Villemette, c'est Raymond Vinci, musique de Francis Lopez et puis grand succès de Luis Mariano, son deuxième très grand succès après La Belle de Cadix. Et donc cette présence de Baquet qui va devenir, je crois d'ailleurs, un ami de toute cette bande Mariano et compagnie, Hervé Baudot. Juste avant cette période de l'opérette, donc à la Libération, Maurice Baquet reprend ses activités musicales.
Oui, il reprend ses activités musicales et je dirais c'est là qu'il affirme son style.
Oui.
C'est-à-dire que notamment, il participe à des galas de la Libération pour les GI à Paris, des galas dans lesquels il y a Django Reinhardt, il y a d'autres orchestres de jazz. Et lui met en place un petit numéro, enfin, joue ses pièces, comme le Rondo, par exemple.
Le Rondo de Boccherini, ouais, qui sera Boccherini, le tube de ses spectacles fantaisistes.
Voilà, et il s'est aperçu que en jouant de la musique, avec ses mimiques aussi, il pouvait mettre en place des choses, un jeu de scène qui pouvait augmenter la musique, en tout cas pour la faire sourire. Et il décide en fait d'investir ce créneau-là.
Voilà. Et au même moment, au fond, Lopez, Villemette et tous ces artisans de l'opérette vont le recruter justement comme quelqu'un qui vient presque faire des numéros dans les spectacles. Hein.
Oui, il est le compagnon, il forme un duo avec le personnage principal de le jeune premier. Et lui, il amène cette joie de vivre. Il vient faire en effet presque faire ses numéros.
Parfois même avec son violoncelle.
Voilà, il vient avec son violoncelle. Ou ses skis.
Il a fait du ski sur la scène du Châtelet notamment.
Oui, absolument.
Je crois,
hein. Oui. Donc il fait ses numéros et je pense que là, il arrive aussi à un moment où l'opérette, après la guerre, il y a un regain autour de cette forme-là. Les gens ont envie de s'amuser. Et lui, il rentre aussi parfaitement là-dedans.
On est pourtant assez loin de Jacques Prévert et du groupe Octobre.
On est loin de Jacques Prévert et du groupe Octobre, mais on est dans la musique malgré tout.
Bien sûr. Et donc, on va énumérer, si on veut, les opérettes importantes qu'il fait. Il y a Andalousie, il y a Colorado, et puis la Quincaillère de Chicago, on l'a entendu tout à l'heure, et aussi Pampanilla avec Jacques-Henri Riss, qui était, je crois d'ailleurs, quelqu'un qu'il avait connu au régiment et qui va écrire cette opérette avec encore un rôle comique. On en écoute un petit extrait.
Dans la vie, faut agir vite et simplement. Moi, je fais tout comme ça, d'un coup. Toutes les fois que l'on hésite, on perd du temps. Moi, je fais droit au but, d'un coup. J'ai autant d'aplomb qu'un grand d'Espagne.
Anda.
C'est ainsi qu'à tous les coups je gagne.
Anda.
Ça va.
Ça va.
Bravo, bravi, brava. Quand mon cœur s'éprend, moi je déclare ça comme ça, d'un coup. Pan.
Y en a qui
trop chou, mais moi pas du tout. Trop flou, mais moi pas du tout.
Les atouts,
mais moi pas du tout.
Tu me plais.
Y en a d'autres qui craignent les coups, mais moi pas du tout.
Et
le
surtout,
loup, mais moi pas du tout. Je suis pas fou, du trop. Malgré mon poids, malgré ma taille, je n'ai pas peur de la bataille. Et pour me voir faiblir, on peut toujours courir. Ma loi, c'est de vaincre ou mourir. Mon amour, je n'aime pas les boniments. J'attaque sans tarder, d'un coup. Quand une femme s'aperçoit de mes sentiments, elle tombe dans mes bras, d'un coup. Je suis comme un taureau dans l'arène. Les choses avec moi, faut pas que ça traîne.
Roulez.
Ça te plaît.
Ça te plaît.
Et vous me la saignez. Pas besoin de serment, l'amour ça vient comme ça, d'un coup, pan.
Je suis sûre que vous dites ça à toutes les femmes, vous devez faire le grand jeu à tous les coups.
Je n'aimerais jamais que vous.
Vous dites ça à toutes les femmes, et vous en connaissez un drôle de bout.
Pour moi vous êtes la plus belle.
Comme c'est bien dit. Vous avez dû glisser souvent cette phrase-là.
Je vous serai fidèle.
Belle répartie. Malheureusement, ce n'est que du blablabla. Je suis sûre que vous dites ça à toutes les femmes. Vous êtes vraiment douée pour le bagou.
Laissez-moi vivre à vos genoux.
C'est un très joli programme. Oui, mais ces procédés, c'est pas mon goût. Mieux vaut garder tout ça pour vous. Car avec moi, je vous la. j'avoue, ça ne prend pas du tout.
Du tout, du tout, du tout, du tout.
Du tout, du tout, du tout, du tout.
Du tout, du tout,
du tout. Du tout, du tout.
Votre dédain me surprend et me blesse.
Ne sanglotez pas, c'est pas le moment.
J'attendrai donc un instant de faiblesse.
Je crois que vous risquez d'attendre longtemps.
Vous êtes plus froide qu'un glaçon.
Oh non!
Vous n'aimez donc pas les piches assises.
Oh si!
Vous vous moquez du grand frisson.
Oh non!
Alors, vous n'avez donc rien ici.
Oh si! Je suis sûre que vous dites ça à toutes les femmes. Pour moi, vous n'êtes qu'un lâche séducteur.
Embrassez-moi ou bien je pleure.
Vous dites ça à toutes les femmes. Et c'est comme ça que vous brisez les cœurs.
Vos yeux me font perdre le nord.
Quelle plaisanterie. Demain matin, vous ne penserez plus à tout cela.
Demain, je serai mort.
Pauvre petit. Asseyez-vous, vous verrez, ça se passera. Je suis sûre que vous dites ça à toutes les femmes. Mais moi, je connais le truc et je m'en défends.
Soyez la mère de mes enfants.
C'est un très joli programme. Oui, mais vos boniments, vos toutous, vos beaux serments et tout, ces machins-là, je vous l'avoue, ne me troublent pas du tout.
Du tout, du tout, du tout, du tout.
Du tout, du tout, du tout, du tout.
Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout.
Maurice Baquet, Doris Marnier dans Pampanilla de Jacques-Henri Riss. Ça, c'était à la Gaîté Lyrique en 1954. Et je suis avec Hervé Baudot qui vient de consacrer un très joli ouvrage à Maurice Baquet où il est question de tous les aspects de ce personnage et notamment l'opérette. On a cité celle des années 50. On peut compléter la liste avec les années 60, hein, le temps des guitares, le prince de Madrid, la caravelle d'or et puis encore les années 70, Gypsy, les trois mousquetaires, Volga. Il a vraiment pris un sacré goût pour l'opérette, Maurice Baquet.
Il y a pris un sacré goût et là je crois encore qui était une de ses caractéristiques, c'est une histoire d'amitié. Est-ce que Maurice oui. Baquet était très fidèle en amitié?
C'est vrai.
Et ça, c'est quelque chose qui l'a guidé pour ses choix tout le long de sa vie. Et ben, voilà, je pense que son amitié avec Mariano, avec Lopez aussi, voilà.
Avec Villemette.
Avec Villemette, voilà.
Mais alors, vous-même, on l'a dit tout à l'heure, vous avez découvert peu à peu, à travers la montagne, comme ça, ce personnage étrange qui était Maurice Baquet, dont vous avez appris à voir les différentes facettes. Et puis, qu'est-ce qui vous a décidé tout d'un coup à carrément écrire un livre?
Moi, j'avais déjà écrit un petit livre inspiré un peu de Loulipo. Et j'aime bien un peu les gens qui prennent un peu des chemins de côté. Alors, pour moi, Maurice Baquet, c'est quelqu'un qui prenait la montagne un peu par le côté, un peu différemment. Et puis voilà, il me semblait que la musique, c'était aussi ça. Mais aussi, comme je vous le dis, avec cette intensité, cette...
D'où le côté d'ailleurs un peu objet de votre livre, objet voilà bizarre avec ces deux livres dans etc. Ouais. Le livre de photos, le livre d'images, c'est un peu presque oulipien.
Presque.
Mais donc voilà, et vous avez décidé d'écrire un livre sur lui tout d'un coup. Et puis alors, comment est-ce que vous vous êtes documenté? Vous avez vu beaucoup de films? Vous avez pu retrouver des archives? Vous êtes allé voir la famille de Maurice Baquet?
Alors, il faut savoir qu'il y a une autobiographie de Maurice Baquet qui va jusqu'au début des années 80, qui s'appelle On dirait du veau.
Ouais.
Qui sont des souvenirs jetés sur le papier. Il y a eu un mémoire universitaire qui a été réalisé. Et puis après, c'est beaucoup de recherches, des rencontres avec la famille, donc avec Marie Baquet, notamment sa femme avec qui j'ai beaucoup travaillé.
Et qu'on salue d'ailleurs.
Salue et qui m'a gentiment ouvert les
archives familiales. C'est bien conservé.
Oui. Ouais, il y a beaucoup de choses. Les portes de cette villa. Et puis des rencontres avec des gens qui l'ont connu à Chamonix, à Paris, en montagne, des gens de cinéma. Aussi comme Nicolas Philibert, par exemple, qui l'a fait tourner.
Pour l'opérette, d'ailleurs, on peut signaler qu'on le retrouve aussi dans certaines adaptations cinématographiques d'opérette, notamment Andalousie,
justement. Notamment Andalousie, je crois, c'est 2-3 ans après la sortie sur scène.
Alors, Hervé Baudot, je voudrais qu'on revienne un peu au violoncelle. Vous nous avez dit que c'était finalement le plus important pour lui, la musique. À partir de quel moment est-ce qu'il a vraiment commencé à produire ses spectacles, sinon en solo, puisqu'il y avait aussi un pianiste, etc., mais enfin ses spectacles autour de son violoncelle?
Tel que je le perçois, ça le commence à la sortie de la guerre, avec ses galas, et puis petit à petit, beaucoup de présence dans les cabarets, sur différentes scènes, il tourne beaucoup. Et puis il va monter des spectacles complets autour de ça.
Jusque très tard dans sa vie d'ailleurs, il y aura Mozart Mantvaud,
Mozart Mantvaud, qui est une pièce de théâtre.
Oui, oui.
Voilà, donc là, c'est un quatuor qui répète le quatuor La Chasse de Mozart. Donc, c'est, on voit tout ce quatuor qui se dispute, voilà. Mmh. Et puis après, qui joue la pièce. Très, très bien. Et voilà, il a aussi un spectacle Méli Mélomane, donc aussi beaucoup à partir des années 80. Mais voilà, il a eu ces spectacles-là où, voilà, il jouait du violoncelle et il faisait sourire en même temps, ce qui, à mon avis, est très difficile parce qu'il faut quand même que la musique soit là.
Ouais.
Et donc, c'était quelqu'un qui travaillait tout le temps son violoncelle, très exigeant avec lui-même autour de ça.
On peut citer d'ailleurs Jacques Prévert encore qui écrit « Maurice Baquet et son violoncelle sont deux frères siamois qui se jouent de la musique. Cela ne veut pas dire qu'ils se moquent, on ne se moque pas de ce qu'on aime. Maurice Baquet depuis toujours aime la musique et c'est un amour partagé, c'est pourquoi la musique, il la fait rire, sourire, danser. Il a la vie dans le corps et son violoncelle, même quand l'air est classique, n'a jamais la mort dans l'âme. »
Absolument.
Vous avez mis ça en exergue du volume de photographies consacré à Maurice Baquet. Alors, je propose qu'on retrouve Maurice Baquet, toujours dans l'émission que j'avais faite avec lui en 2000. Il va nous dire quelques mots brièvement de son violoncelle. Et puis, on va l'entendre justement dans un de ses numéros qui s'appelle Ré, Mi, Fa, Sol.
Au Conservatoire de Paris, j'étais dans une classe merveilleuse avec Paul Tortelier,
oui.
Maurice Gendron est venu un petit peu plus tard, Nels, enfin, il était de très bons violoncellistes et un maître merveilleux qui était Gérard Hecking, qui m'avait dit cette phrase, il m'avait bien marqué. Lorsque j'ai eu mon prix, il savait que je connaissais Prévert, Picasso, enfin, toute cette bande, et m'a dit, toi, tu vas faire certainement autre chose dans la vie, mais n'oublie jamais ton violoncelle. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai jamais oublié mon violoncelle.
Ré, mi, fa, sol sont les vraies paroles. Tegeda, tegeda, c'est autre chose. Ré, mi, fa, sol, tegeda, 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 pané, tilloré, lumé, tegeda, ré, mi, fa, sol, tegeda, 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 pané, tilloré, lumé, tegeda, ré, mi, fa, sol, tegeda, 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 pané, tilloré, lumé, tegeda, ré, mi, fa, sol, tegeda, 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 pané, tilloré, lumé, tegeda, 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 si, 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 mi, si, mi, si, mi, si, la, sol, fa, mi, ré, mi, ré, mi, la, 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 ré, la, sol, fa, mi, ré, do, ré, do, ré, ré, mi, ré, do, ré, do, ré, do, ré. C'est dur à chier, ça.
J'ai aussi eu cette chance de connaître le ski de compétition à ses débuts. J'ai fait partie de l'entraînement.
C'est-à-dire avant la guerre ?
Oui, en 36-37.
Ah oui.
C'était le premier championnat du monde qu'a gagné Émile Allais et l'équipe de France de ski de descente. Et moi, j'étais un peu l'entraîneur moral. C'était, donc, c'était
moral,
l'époque où il n'y avait pas trop de téléphériques. Et puis ensuite, il y a eu des téléphériques. Alors, on attendait et j'ai composé une chanson qui nous permettait d'attendre nos places dans les téléphériques. Voilà.
Et cette chanson, d'ailleurs, c'est La Neige Poudreuse qu'on a entendue
entendu
Hervé Baudot tout à l'heure. Voilà, un petit mélange, un petit montage d'extraits de cette émission qu'on avait faite ensemble, où on retrouve évidemment ces merveilleux numéros de violoncelle, le plus célèbre étant donc le rondo d'après Boccherini. Hein,
c'est oui, c'est ça. Le plus c'est joué. Sa signature musicale.
C'est sa signature musicale. Mais Rémi Fassol, c'est pas mal non plus.
Rémi Fassol, c'est pas mal.
Il y a un concert avec Ivry Gitlis, on retrouve ça dans les archives discographiques. Et puis, oui, je voulais faire la transition avec... L'homme de la montagne, pour y revenir un peu, on l'a déjà évoqué, mais cet amour de la montagne, ça lui est venu très jeune, presque en même temps que le violoncelle. Hein.
Oui, alors ça lui est venu très jeune, puisque de Villefranche, on voit le Mont Blanc.
Oui.
Quand il fait.
Villefranche-sur-Saône.
De Villefranche-sur-Saône, on voit le Mont Blanc
ah,
quand,
je pensais pas,
quand
ouais.
il fait beau. Ouais. Ça le faisait rêver, et petit à petit, il s'est mis à la montagne. Et quand il a terminé son conservatoire à Lyon, ouais. il est parti l'été à Chamonix, en 1928. Et son premier été à Chamonix. Et donc là, il s'est fait engager comme violoncelliste solo à la Brasserie Centrale.
Ah oui.
Donc il jouait. À Chamonix, c'était une station
importante.
Bordel,
oui, bien sûr,
importante.
Ouais.
Donc il jouait là en fin d'après-midi, par exemple, à l'heure de l'apéritif. Et le soir après, il partait en montagne Ah donc, oui. Il partait tout seul. Et voilà, il a commencé comme ça à faire ses premières ascensions. Et puis, il a rencontré des guides de Chamonix avec qui il est devenu ami. Et voilà, il est rentré, entre guillemets, dans la carrière. Il
donc, est d'abord, c'était pas pour le spectacle. C'était vraiment une passion de l'escapade en montagne de l'alpinisme.
C'est vraiment une passion de l'escalade, de l'alpinisme. En plus, il a des dons pour ça parce que c'est quelqu'un d'assez tonique.
Petit, svelte.
Il a de la force. Voilà, donc presque un gymnaste. Il est capable, voilà. Et donc, il se lance là-dedans. Il va rencontrer, notamment Frison Roche. Et puis, Gaston Rébuffat, après.
Ouais.
Gaston Rébuffat, dans le monde de la montagne, c'est un peu un passeur. C'est quelqu'un qui veut montrer la montagne, le beau côté de la montagne au grand public. Et avec Maurice, ils vont former un duo qui va servir ça. Et donc, ils vont faire des grandes courses ensemble, qu'ils vont filmer, mais vraiment des grandes courses à l'époque, et qu'ils le sont toujours, des faces nord, dans les...
Là, ça a une fin aussi de communication.
Oui, voilà, de communication, façon. Les courses sont faites. Ouais. Et puis, ils vont tourner Étoiles et Tempêtes, ce fameux film où on le voit jouer du violoncelle en montagne. Et je dirais, là aussi, le point d'or de leur réalisation alpine, c'est l'ouverture d'une voie dans la face sud de l'Aiguille du Midi en 1956, la Rébuffat-Baquet, qui est une très belle voie d'escalade, qui est une classique.
Voilà, donc ça c'est au fond une vraie et profonde passion, alors que le ski acrobatique c'est plus de l'ordre du musical dans la vie de Maurice Baquet.
Alors il est passionné de montagne, et dans la montagne il y a le ski, donc il s'est passionné aussi pour le ski, et il a rencontré Émile Allais à l'occasion je crois justement du tournage de Monsieur Lange, Émile Allais qui travaille dans un atelier à Billancourt à côté pour faire des skis, et il est rentré en équipe de France, alors il avait un bon niveau à ski, évidemment pas le niveau des skieurs de l'équipe de France, mais il avait un bon niveau, et il a contribué aussi à mettre l'ambiance, à détendre
disait tout à l'heure, oui.
Et il a aussi fait un certain nombre de films de promotion du ski. Voilà.
Voilà. Et puis la descente du premier étage de la Tour Eiffel.
Alors il descendait du premier étage de la Tour Eiffel, des escaliers à Montmartre.
Les escaliers de Montmartre également, voilà.
Dans son appartement.
Mais alors ça, c'était des performances qui étaient, comme on dirait aujourd'hui, des performances filmées, mises en scène, annoncées.
Oui, enfin j'ai l'impression que ça se faisait surtout avec des copains. Et,
Et on trouve alors dans votre livre des très très belles photos de Maurice Baquet à la montagne, notamment des photos de douaneaux incroyables, alors qui sont très travaillées, j'imagine, très stylisées. Baquet au sommet d'un incroyable rocher avec son violoncelle, son pupitre et sa chaise, ou au milieu d'un névé, etc., etc.
Alors là, on est typiquement justement dans un regard complètement décalé sur la montagne. C'est-à-dire que la photo de quelqu'un qui joue du violoncelle,
c'est surréaliste.
Voilà, c'est surréaliste. Oui. Et d'ailleurs, c'est surréaliste au sens premier, et puis j'allais dire aussi, il y a aussi des photos qui sont très proches du travail des surréalistes. Dans ce qu'a fait Douaneau, il y a du collage, il y a des choses comme ça avec Baquet, et là c'est une très grande histoire d'amitié entre Douaneau et Baquet. Douaneau, je crois, était plutôt quelqu'un d'assez réservé, Baquet plutôt d'expansif, de joyeux, et tout ce travail photographique qui a été publié après dans Balade pour violoncelle et Chambre noire, c'est vraiment le récit de leur amitié. Enfin, c'est la trace photographique de leur amitié.
Il y a aussi des photos à New York extraordinaires, Baquet avec une grande voiture américaine et son violoncelle dans une espèce de tempête de neige en plein New York, et beaucoup d'autres encore. Tiens, puisqu'on parle de New York, si on écoutait un tube de la comédie musicale Cheek to Cheek. Mais alors, vous avez choisi une version, Hervé Baudot, Tony Bennett et Lady Gaga.
Très belle version.
Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek.
Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak.
Me too.
But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.
And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through
to heaven.
Heaven.
Yes, I'm in heaven.
I'm in heaven.
And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Go.
happiness I seek.
Oh, baby, when we're out together dancing.
Out together dancing.
Out together dancing, cheek to cheek. Ba-da-bop, 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 ba-da-bop.
Cheek to Cheek, le standard d'Irving Berlin avec une figure de la chanson américaine, Tony Bennett et Lady Gaga, grande différence de génération. Ça m'a beaucoup surpris cet enregistrement, merci de me l'avoir fait connaître, Hervé Baudot.
Oui, moi, enfin, quand c'est sorti, ça m'avait aussi surpris, mais justement, je trouve que il y a pas de frontières, quoi. Il y a pas de frontières et il y a juste du talent. Voilà, là encore, Lady Gaga au service du jazz avec Tony Bennett, c'est juste improbable, mais
oui, ça marche très bien.
Donc, ça marche très bien.
Et quant à notre cher Maurice Baquet, c'était aussi un passionné de jazz, hein, et notamment de Duke Ellington.
Alors, c'était un passionné de jazz et il aimait beaucoup ce que faisait Duke Ellington et notamment, il avait une grande admiration pour Harry Carney, un des sax barytons de la section de,
oui,
de Duke Ellington,
oui.
Celle avec Johnny Hodges. Et voilà, il connaissait ses solos par cœur, il l'a rencontré, il a aussi rencontré Dizzy Gillespie. Et on peut voir d'ailleurs sur des archives, je crois lors d'un concert avec Rostropovitch, Maurice Baquet partir en walking bass, enfin qui est vraiment une figure de jazz au milieu du concert. Voilà, c'est très étonnant.
Un de ses duos avec les grands musiciens classiques, mais duo fantasy, puisqu'ils aimaient bien finalement jouer avec lui, que ce soit Rostro, Ivry Gitlis ou d'autres.
Et là, Rostro est au piano.
Oui, en plus. Le jazz qui devait rapprocher d'ailleurs également Maurice Baquet de notre ami Sampé, qui a fait pour lui quelques jolis dessins. Vous en avez repris dans votre livre, parmi beaucoup d'autres photos merveilleuses, hein, photos de cinéma, photos de spectacle, principalement du noir et blanc, photos de Doisneau, mais aussi photos de quelques autres, prêtées notamment par la famille Baquet, j'imagine.
Absolument.
Hervé Baudot, vous avez dit souvent dans l'émission... Maurice, comme si vous l'aviez connu, finalement, c'est presque comme si vous l'aviez connu aujourd'hui.
Moi, je n'irai pas jusque-là, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu à côté de lui pendant 2 ans, et puis c'est quelqu'un qui m'inspire aussi beaucoup.
Voilà, et c'est une merveilleuse idée d'avoir fait ce double livre aux éditions Guérin-Paulsen.
Qui est un éditeur chamoniard et parisien, enfin, aussi maintenant.
Voilà, et c'est donc un tirage limité, je crois d'ailleurs, hein. C'est un numéroté, et un petit livre objet, photo et texte. Oh, vous avez, en tout cas, je ne connais pas votre livre sur le lipo, mais fait vos preuves d'écrivain, me semble-t-il.
Merci.
Et vous avez, redonné goût au talent de Maurice Baquet ce matin. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
On va se quitter avec un extrait du Prince de Madrid. Encore une de ces opérettes de Lopez dans lesquelles il a laissé quelques enregistrements. Merci Hervé Baudot.
Merci à vous.
Je m'appelle Paquita, je fais danser la rota.
Je suis le grand Paquito, je voyage incognito.
Toujours dans les rues des petits paquitos, regardez passer les paquitas. Et de leur amour il naîtra de gentils chiquitos pour courir après les chiquitas.
Joli comme un paquita, vous n'en verrez pas d'état.
Pour épater paquitos, il faudra vous le faire tôt.
Vous ne pensiez pas peut-être
on verra toujours dans les rues des petits paquitos, regardez passer les paquitas. Et de leur amour il naîtra de gentils chiquitos pour courir après les chiquitas.
Viendrez-vous pour Paquita chante la sérénata?
Quand vous voudrez Paquito jouera tout un concerto.
Cette nuit sous ma fenêtre
on verra toujours dans les rues des petits paquitos, regardez passer les paquitas. Et de leur amour il naîtra de gentils chiquitos pour courir après les chiquitas.
Maurice Baquet en duo avec Éliane Varron dans Le Prince de Madrid, l'opérette de Francis Lopez, ici dirigée par Paul Bonneau. Et si vous voulez donc tout savoir sur Maurice Baquet en texte et en images, eh bien le mieux c'est de vous procurer ce livre dont nous avons parlé ce matin avec son auteur Hervé Baudeau. Ça s'appelle Maurice Baquet, portrait avec violoncelle, et c'est paru aux éditions Guérin-Paulsen.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et bien sûr, cette émission, comme tous les numéros d'Étonnez-moi Benoît, vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site francemusique.fr. J'adore ce morceau Dizzy Fingers par Henri René et son orchestre, un disque de 1961 que vous retrouvez dans la compilation de notre ami Serge Elaïc, La magie des grands orchestres internationaux. Et puis toujours, tiens, à propos de disques, je reviens un instant à ce coffret Prévert qui vient de paraître chez Frémaux et Associés. Je vous ai fait entendre tout à l'heure la première chanson enregistrée de Prévert, Florelle, en 1934. Parmi les autres curiosités qu'on trouve ici, il y a cet enregistrement de Claude Devaux, un ténor d'opérette que j'adore, qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les grands enregistrements d'Offenbach de l'époque de Jules Gressier. Mais il a aussi chanté cette fable de Prévert sur une musique de Gilbert Lecomte. C'était en 1957.
Un village écoute désolé le chant d'un oiseau blessé. C'est le seul oiseau du village et c'est le seul chat du village. Il a à moitié dévoré. Et l'oiseau cesse de chanter, le chat cesse de ronronner et de se lécher le museau. Et le village fait à l'oiseau de merveilleuses funérailles. Et le chat qui est invité marche derrière le petit cercueil de paille où l'oiseau mort est allongé, porté par une petite fille qui n'arrête pas de pleurer. Si j'avais su que cela te fasse tant de peine, lui fit le chat, je l'aurais mangé tout entier, et puis je t'aurais raconté que je l'avais vu s'envoler, s'envoler jusqu'au bout du monde. Là-bas où c'est tellement loin,
que jamais on n'en revient. Tu aurais eu moins de chagrin, simplement de la tristesse et des regrets. Il ne faut jamais faire les choses à moitié.
Claude Devos et Gilberte Lecomte dans une version lyrique assez inhabituelle pour une chanson de Prévert. Celle-ci s'intitule Fable, un enregistrement de 1957 parmi toutes les raretés qu'on peut retrouver dans ce coffret Les chansons de Prévert chez Frémaux et Associés. Tiens, par exemple, parmi beaucoup d'autres, trois chansons interprétées par Éric Amado, le père de notre réalisatrice Christine Amado. Je vous en reparlerai. La Muse de la danse, une composition de Joseph Strauss au cours du concert Nouvel An 1991. C'était sous la direction de Claudio Abbado. Et je vous l'avais promis pour terminer cette émission, quelques petites archives que j'ai ressorties pour vous. La première, ça fait plusieurs semaines que je voulais vous la faire entendre. Le moment est enfin venu. Il s'agit de Beethoven, non pas Beethoven, Beethoven, qui était un grand fantaisiste de l'entre-deux-guerres, une sorte d'autre Maurice Baquet, parce qu'il avait un très bon métier classique. Il était Grand Prix de Rome, il avait écrit des opéras, des cantates. Mais pour gagner sa vie, il donnait aussi des spectacles musicaux au cours desquels il s'accompagnait avec son piano. Il donnait des pastiches de tous les styles musicaux qu'il maîtrisait parfaitement. C'est très drôle. Et il a donné comme ça des faux opéras comiques, des faux opéras de Wagner, des fausses opérettes. Et là, nous allons l'entendre dans trois petits pastiches musicaux où il imite à la perfection le style de quelques compositeurs français de la fin du 19e et du début du 20e siècle.
Petits pastiches musicaux. Fausse mélodie de Massenet. Ça s'appelle Annette, parole de machin. Annette n'a pas 20 ans et son sourire est un peu bête. Qu'importe si le printemps lui a donné de la galette. Annette n'a pas 20 ans et son sourire est un peu bête. Annette, Annette a un air terriblement bête. Faux Debussy, parole de faux Maeterlinck.
Comme ce soir, la fontaine est pâle, les lampes vont monter vers l'avenir. Elle marche 3 par 3, comme de petites grenouilles bleues. Ah, ah, ton regard semble s'être voilé de crêpes de Chine. Vaseline, vaseline. Ma mère avait aussi des guiches sur les joues. Mon cœur se fend comme la crête d'un coq à l'âne. Rentrons.
Petit pastiche de Reynaldo Hahn, une fausse mélodie. Ça s'appelle « Dans les cannes à sucre ».
L'air est pur, la nature embaume, les sentiers sont emplis de chardons tout en fleurs. Sur ce banc, mon aimé, viens t'asseoir, oh cher pépé. Je vois dans tes yeux si clairs 2 ou 3 moucherons. Prends ton mouchoir, en as-tu un? Car ça doit te piquer très fort, oh mon aimé.
Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas encore Beethoven, eh bien c'était un de ses pastiches musicaux qu'il a enregistré assez nombreux à la fin des années 20. On en retrouve quelques-uns sur Internet. C'est pas très très bien réédité malheureusement. C'était une espèce de grand loufoque de la musique que j'espère avoir l'occasion de vous faire encore entendre souvent. Et puis, seconde archive de la semaine. Alors là, c'est une suite pour petit orchestre qui a un rapport direct avec l'histoire du cinéma.
Thank you.
Et les amateurs de cinéma policier français auront reconnu le thème de Touchez pas au Grisby, le film de Jacques Becker en 1954 avec Jean Gabin et avec cette musique jouée ici par le compositeur Jean Viennère avec Henri Crolla à la guitare et Jean Wetzel à l'harmonica. Alors Jean Viennère, qui était un homme qui aimait mélanger le savant et le populaire, a eu l'idée à partir de ce thème de développer une petite suite pour orchestre comme on faisait des suites à l'époque de la musique classique. Sauf que là, c'est sur une série de rythmes modernes qu'il nous propose de varier le thème de Touchez pas au Grisby. On va retrouver cette suite à danser de Jean Viennère avec les mouvements suivants. Slow, valse musette, tango, valse, begin et polka.
Thank you.
La suite à danser de Jean Wiener, autrement dit variation sur Touchez pas au Grisby, interprété par l'orchestre E8, un disque 33 tours qui vient des précieuses archives de la discothèque centrale de Radio France. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Stéphane Démon, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, nous parlerons d'opérette à l'occasion du Festival du Palazzetto Bruzane avec Flannan Aubé, Lara Neumann et Arnaud Marzorati. Bon week-end à tous. Et sur France Musique, vous avez rendez-vous maintenant avec Philippe Venturini.